Bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche soir, c'est l'heure du Grand Fauve. Et à l'affiche ce soir, le miroir du football. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Coppa, quelle est la caractéristique dominante de votre jeu?
Quand je suis sur un terrain, que ce soit à l'entraînement ou pour un match, je veux gagner et je râle pas mal.
Vous n'aimez pas perdre?
Écoutez, j'ai toujours dit qu'il y avait une façon de perdre. L'essentiel, c'est de bien jouer. Et ma foi, quand on a bien joué, qu'on n'a rien à se reprocher, ça ne fait rien de perdre.
Ça ne fait rien de perdre quand on a bien joué. Ces mots de Raymond Coppa prononcés en 1958 auraient sans doute bien du mal à trouver leur place dans le football d'aujourd'hui. Ça ne fait rien de perdre quand on a bien joué, ce fut aussi la ligne éditoriale d'un journal à part dans l'univers de la presse sportive, le miroir du football. C'est son nom, il ne vous dit peut-être pas grand-chose. Un mensuel dont Coppa fut compagnon de route, une presse proche du Parti communiste et qu'il est très intéressant de feuilleter à quelques jours de l'ouverture de cet Euro 2021. Alors au micro d'Inter ce soir, deux invités pour ausculter les esthètes du football qui se nichaient dans la rédaction du Miroir. D'abord, il fut une plume sportive très enlevée, journaliste devenu écrivain, Benoît Emmermann, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue, bienvenue à la maison. À vos côtés, un entraîneur français de panache, éduqué au football par le Miroir. Il fut l'âme du FC Lorient, à vrai dire, il l'est pour toujours. Christian Gourcuff, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu vous aussi. Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio. Ce soir, les hymnes de l'équipe de France de football. Vous êtes bien sur France Inter, dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, le miroir du football ou le plaisir du beau jeu.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors cette semaine en préambule à l'histoire de cette presse sportive en ébullition, disparue depuis le mi-temps des années 70, nous allons commencer par une archive de 1958, car c'est dans la foulée justement de cette Coupe du Monde euphorique en Suède en 58, avec une équipe brésilienne virevoltante, qu'est apparu en France le miroir du football. Une Coupe du Monde comme un acte de naissance pour l'équipe de France.
1958. En ce temps-là, les Français ont trois idoles. De Gaulle, bien sûr, qu'ils ont appelé pour sauver la République une deuxième fois. Brigitte Bardot, qui va servir de modèle à une Marianne toute neuve. La troisième idole des Français, c'est Coppa. Le petit Raymond Coppa, que les Anglais ont surnommé le Napoléon du football français. Il a fait la gloire du stade de Reims, la grande équipe des années 50. Ce fils de mineur d'origine polonaise est un stratège né. Il sert le ballon sur un plateau à ses équipiers qui n'ont plus qu'à marquer. Juin 1958, tout le monde du football s'est donné rendez-vous à Stockholm. L'équipe de France va-t-elle enfin se distinguer grâce à ce noyau de champions du stade de Reims qui ont l'habitude de jouer ensemble, grâce à Jean Vincent, grâce au trio d'attaque, Coppa, Piantoni et le buteur Juste Fontaine. Première surprise agréable. En poule, la France bat l'équipe du Paraguay par 7 buts à 3. Fontaine, à lui seul, se paie le luxe d'en marquer 3.
Et puis les Bleus ont été battus par le Brésil de Pelé en demi-finale. Mais qu'importe, en 1958, le football est devenu la joie du peuple. Voici l'histoire du dimanche soir. Après la guerre, dès 1945, les supporters français retournent tout doucement vers les stades. Les compétitions nationales reprennent et offrent des réjouissances dans ce monde en ruine. Mais la presse sportive est inexistante, et ce pour deux raisons. D'abord, les titres d'avant-guerre qui ont collaboré sous l'occupation ont été interdits. Et par ailleurs, face à la pénurie de papier, le gouvernement n'a pas donné priorité à ce type de journaux. Néanmoins, dès 1946, certains titres apparaissent. L'équipe, bien sûr, mais aussi Miroir Sprint, journal d'obédience communiste qui refuse de laisser la jeunesse et le sport sous l'emprise du capitalisme. Ce titre s'est ensuite décliné pour donner naissance à des mensuels, et notamment le Miroir du football, qui apparaît en 1958 sous la direction de François Thébault, journaliste écrivain, invité chez Bernard Pivot en mai 82.
Je pense que la vie d'un journal
La vie normale d'un journal a des raisons, trouve sa raison d'être dans son sujet. Pour moi, le Miroir du football, qui était le premier magazine mensuel de football, est né de la vague d'expansion du football qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Les exploits de l'équipe de France en 1958 se sont situés dans un contexte d'euphorie du football en général. D'une part, un public formidable, et d'autre part, une qualité de jeu aussi. Je crois qu'à partir de 1960, il y a eu un grand tournant dans le football, l'apparition des tactiques défensives, l'apparition aussi de, si vous voulez, sous une forme plus large, de ce réalisme, c'est-à-dire de la priorité accordée aux résultats sur le jeu. Et c'est à partir de ce moment-là que se situe une dégradation presque continue du football.
Une dégradation presque continue du football. Benoît Emmermann, le football vous accompagne depuis que vous êtes gamin, depuis votre enfance. Pour commencer, Benoît, en quelques mots, qui était ce François Thébault qu'on vient d'entendre dans le paysage du football français?
François Thébault était un journaliste de sport, évidemment spécialisé dans le football. C'était quelqu'un d'engagé, naturellement. Il était très proche du Parti communiste, on a parlé de ça tout de suite.
Pas adhérent au Parti communiste.
Pas adhérent, hein. Mais très proche de ce parti. Et tout de suite, il était, c'est un théoricien du football. Et il avait la particularité d'expliquer ses théories à travers ses reportages, ses portraits, etc. Mais en plus de les mettre en pratique souvent le week-end avec sa bande de copains. Il jouait beaucoup au football, il faut insister là-dessus. François, il faut le situer physiquement aussi, c'est un homme pas très grand, éthique comme ça, émacié, un peu sévère, mais toujours en forme, affûté, comme on dit en sport. Et tous les week-ends, ou quand il avait le temps, quand il jouait avec ses copains, et il développait ce propre football-là. On a souvent opposé Jacques Ferrand à François Thébault. Jacques Ferrand le moquait parce qu'il n'avait jamais joué au football, et François mettait toujours en pratique ses théories. Donc ça, c'était cet aspect qu'on aimait beaucoup chez lui. Et puis, c'était un homme de conviction et qui défendait donc sa philosophie du football avec énormément de vista et de hargne. Et je dirais qu'aujourd'hui, si on veut faire des comparaisons, il bosserait plutôt à SoFoot ou au Cahier du football qu'à l'équipe.
Christian Gourcuff, les gens qui aiment le football vous connaissent bien. Vous êtes un des grands entraîneurs français de ces 20 dernières années. Votre nom est associé évidemment au FC Lorient, ce grand club cher à votre cœur, même si vous n'y êtes plus. Vous êtes breton, comme ce François Thébault qui est né à Carantec en 1914. Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans votre vie, Christian Gourcuff, ce François Thébault?
Pour moi, il a été extrêmement important, déjà adolescent, parce que je lisais Miroir du foot avec des copains, donc j'ai été influencé forcément par ses lectures et captivé parce que notamment le football sud-américain, on avait l'impression qu'il y avait aucune qu'on connaissait tout alors qu'on voyait très peu de matchs, hein, à l'époque. Ça m'a formé toute une philosophie, un état d'esprit. Et puis après, j'ai eu la chance de connaître François.
Vous étiez amis.
Oui, je l'ai rencontré lors des tournois de Six, par exemple. Il venait voir les tournois de Six dans le sud Finistère. Je faisais des tournois de Six avec des copains. Il vivait le foot. Et donc après, j'ai eu beaucoup d'échanges avec lui et avec son équipe. Ça a structuré un petit peu mes idées sur le plan, non pas du football seulement, mais sur le plan de la philosophie de la vie. Parce que c'était quelqu'un de très intelligent, qui avait une grande personnalité dans ses convictions, d'une grande moralité, ce qui est même pas imaginable maintenant. Ça m'a construit, et non seulement comme joueur, comme entraîneur, mais aussi comme homme.
Et ce qu'on a retrouvé dans vos applications de jeu, on va y revenir dans cette émission, évidemment. Benoît, revenons deux secondes aux origines de ce magazine dont on parle ce soir, le Miroir du football. Donc il est une sorte d'émanation de Miroir Sprint, qui était un journal d'obéissance communiste. Pour quelle raison, Benoît, en 1946, le Parti communiste français s'intéresse soudain au sport de compétition?
D'abord, il faut qu'on replace ça dans le contexte. Il y avait 30% des Français qui votaient communistes à la sortie de la guerre. Un Français sur quatre, ou un Français sur trois, votait Parti communiste. Donc, ne serait-ce qu'en presse quotidienne, ils avaient trois journaux. Il y avait L'Humanité d'une part, il y avait Ce Soir, qui appartenait à Aragon, ou qui était dirigé par Aragon, et il y avait l'ancien Libération d'Emmanuel Dacier. Donc, ça avait déjà trois journaux. François a travaillé pour les deux derniers, pour Ce Soir et pour
Libération.
Pour Libération. Et il y avait effectivement un petit quotidien de sport qui s'appelait Le Sport, tout simplement. On retrouvait des plumes comme Jacques Marchand, comme Pierre Chani, qui plus tard travailleront à l'équipe. Et l'idée du Miroir Sprint a été lancée par le Parti communiste. J'adore le titre, moi. Miroir Sprint. Miroir, c'est le reflet de la société. C'est, c'est, C'est ça qui est intéressant dans ce type de journaux. Et sprint, évidemment, ce côté compétition, sport, etc. Donc cette volonté de développer Miroir Sprint, c'est justement pour dire, il y a le sport, évidemment, mais il y a toute l'éducation qui est autour, il y a toutes les valeurs qui sont attachées au sport, et il y a tout ce que le monde qui est reflété par ça. Et donc c'est de ça qu'est parti le miroir du football. N'oublions pas aussi un personnage qui était Maurice Vidal, qui dirigeait tout ça, qui a eu une grande influence et dont François Thébault était également reconnaissant, même si on se fâchait sur la fin.
Christian Gourcuff, vous l'avez évoqué, vous lisiez miroir du football quand vous étiez gamin, dans les années 60-70. Qu'est-ce qu'on y trouvait concrètement dans ce journal? Vous avez quel souvenir de feuilleter ce canard? Qu'est-ce qu'il y a comme souvenir qui reste aujourd'hui chez vous?
C'est l'hymne au jeu, la qualité du jeu, le plaisir tout simplement. Et quand on est adolescent, on fantasme un peu sur ce plaisir de jouer qu'on recherche. Puis la pertinence des analyses, parce que même en étant adolescent, on avait comme la faculté d'apprécier la pertinence de l'analyse, de l'intelligence, du discours et de la cohérence.
Parce que très vite, François Thébault a apporté un discours intelligent sur le football. C'est ça qu'il faut le dire.
Sur la vie, en général, et notamment sur le football, oui, bien sûr. Il y avait des arguments, c'était très cohérent, tout était cohérent.
Benoît.
N'oublions pas, vous l'avez dit, ça naît en 1959, donc dans la foulée de la Coupe du Monde. D'un côté, il y a France Football qui appartient à l'équipe, France Football, donc on est égocentré, ethnocentré même.
Orgueil national.
Orgueil national, chauviniste un petit peu. Et François Thébault a cette lucidité de dire, mais allons voir ce qui se passe en Amérique du Sud. Et il part en Amérique du Sud pendant plusieurs semaines, il ramène un article assez exceptionnel qui va faire 40 pages dans le numéro 3 du Miroir du Football, que moi je compare souvent le Miroir du Football au Cahier du Cinéma. Et François Thébault, c'est Truffaut qui écrit son grand texte, une certaine idée du cinéma français. Il faut passer cul par-dessus tête les idées d'antan et avoir une conviction par rapport à ce qui se passe de nouveau. Et qu'est-ce qui se passe de nouveau? C'est que le centre de gravité du football se déplace sans doute en Amérique du Sud, dit-il, et peut-être en Afrique, dans le tiers-monde en tout cas, et que c'est ça qui est intéressant.
Alors dans ce miroir du football, en effet, on trouvait beaucoup d'articles consacrés aux poètes brésiliens, dont peut-être le plus touchant d'entre eux, mort en 1983.
Adieu Garrincha. Comme bon nombre d'arrières des années 50, nous ne vous reverrons plus. Votre dernière feinte, votre dernier tour, c'est d'avoir quitté trop tôt ce monde que vous aviez tant enchanté. Vous êtes mort à 49 ans dans un hôpital de Rio. Rio, là même où avec Botafogo se sont révélées vos qualités. En 58 et 62, vous avez été l'un des principaux artisans de deux victoires brésiliennes en Coupe du Monde. Vos jambes marquées, votre vitesse de course faisaient de vous un illusionniste. Vos adversaires connaissaient ce dribble, toujours le même, celui-ci. Une feinte sur l'intérieur, un départ vers l'extérieur. Jamais, ils ne parvenaient à vous saisir. Magicien du dribble, vous avez fait pleurer de rage vos adversaires, de joie vos supporters. Hélas, après la Coupe du Monde 62, vous avez, semble-t-il, perdu la tête. Quittez votre famille pour une chanteuse brésilienne et essayez de jongler avec l'alcool. Cet adversaire-là est plus difficile à contourner. Dommage, car votre désir, c'était de vous occuper désormais des enfants des favelas, de leur transmettre votre savoir-faire. Trop tard, Garrincha.
Benoît Emmermann, Garrincha, joueur de génie. Pourquoi Garrincha, il peut incarner le footballeur aux yeux de François Thébault?
Parce qu'il y a ce côté poète et ce côté de sa mort un peu tragique. Je pense que Pelé était tout de même le fondement de ce journal, et surtout pour François. François a écrit un livre sur Pelé qui est fondamental, et le titre est fondamental. Pelé, une vie, le football, le monde. Ça, c'est le titre de François Thébault, de sa biographie de Pelé. Ça veut tout dire. C'est quelque chose de très important. Pelé, sa carrière, miroir du football, c'est 59-79. C'est exactement la carrière de Pelé. Et je crois que c'est quelqu'un qui comptait fondamentalement pour François. Il l'a rencontré plusieurs fois. Il se débrouillait pas mal en portugais. Il essayait de dialoguer avec lui. Il a fait un nombre de une incalculable de miroir du football avec lui. Et je crois que c'est Pelé qui comptait beaucoup pour François.
Christian Gourcuff, dans le miroir du football, on faisait l'éloge évidemment du jeu collectif. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, à l'époque et aujourd'hui encore, en tant qu'entraîneur, quel est le sens de ce collectif, de ce jeu collectif qui transpirait dans le miroir du football?
C'était l'harmonie collective, le plaisir de jouer, mais le plaisir partagé. Et le Brésil illustrait complètement ces valeurs-là. C'est ce plaisir, cette recherche d'émotions, d'émotions collectives, de partage et de plaisir de jouer.
Benoît Mermann, en mai 68, la rédaction du Miroir du football va participer aux événements sociaux à Paris et en France. De quelle manière et avec quelle ambition, Benoît Mermann?
Si vous voulez, tous les métiers étaient dans la rue en 68, pourquoi pas les footballeurs, puisque François disait, après tout, ce sont des travailleurs comme les autres, il y a des professionnels, ce sont des travailleurs. N'oublions pas que Coppa, dont on a parlé tout à l'heure, au début, avait fait cette grande déclaration à France Dimanche. Au début des années 60, ils se considéraient comme un esclave, puisque le contrat à temps ne leur permettait pas de changer de club comme ils voulaient.
Ça, pour le préciser, c'est quasiment des contrats à vie à l'époque. Joueur signe à Reims, et il restera à Reims toute sa vie. Il y a presque une forme d'aliénation du footballeur au patron.
Absolument. Et donc, François était un peu choqué par ça. Il faut pas oublier que Coppa était vice-président de l'UNFP à l'époque. Vous imaginez Mbappé à l'UNFP aujourd'hui. Enfin, c'est impensable. Juste Fontaine était en première ligne. Il a occupé les locaux de la rue d'Iéna de la Fédération en 68.
Oui, donc le 22 mai, il y a occupation de la FFF par une partie, une centaine de personnes à peu près, c'est ça?
Voilà, et quasiment la rédaction de Miroir du Foot, qui est là présente et qui déploie une banderole, le football au footballeur. Et qui développe cette idée. Et à la tribune, il y a Juste Fontaine aussi. Donc, il y a ce côté revendiqué un autre statut pour les footballeurs, bien avant l'arrêt Bosman, etc. Ils étaient, de fait, en avance de ce point de vue-là. Et là encore, parce que l'équipe était plus institutionnelle, plus proche de la fédération, plus proche des Coupes d'Europe et du football spectacle. Si on relit les articles de cette époque sur cette occupation de 68 dans l'équipe, ils prennent ça un peu de manière dérisoire.
Oui. Un peu moqueuse,
alors que Miroir est à fond dans cette affaire.
Oui, c'est-à-dire que il y a une convergence des luttes. Le footballeur est un travailleur.
Absolument, ça paraît normal, en tout cas à l'esprit de François.
Christian Gourcuff, à l'époque, dans les années 70, il se trouve 60-70 dans ses revendications sociales pour le football, la Bretagne est une sorte de fer de lance, notamment dans la région de Lamballe, dans les Côtes d'Armor, Côtes du Nord à l'époque. Quel souvenir vous avez de cette Bretagne des années 70 à l'égard de ses revendications sociales pour le football?
Alors c'est vrai, François était... C'est un Finistérien. Bon, il avait une maison à Rieck-sur-Belon où il s'est retiré. Donc, c'était aussi un Breton. Et il y avait Nantes et Rennes dans les années 60, bon, qui représentaient aussi une forme de jeu collectif qui était le plus évolué en France.
Et qui gagnait.
Rennes, la Coupe de France. Oui. Nantes était champion de France. Donc, qui marquait quand même les esprits. Puis il y avait le Stade Lamballe, qui était,
avec à Lamballe, voilà, c'est
Jean,
ça.
Jean-Claude Trottel, qui était avant-gardiste sur le plan tactique, sur le plan collectif. Et même dans la gestion du club, donc c'est vrai qu'en Bretagne il y avait beaucoup de points de résistance, je dirais, mais bon c'était pas général, parce que bon, on avait le Finistère, le Nord Finistère notamment, où c'était très très physique, donc on peut pas dire que c'était vraiment toute
Qu'est-ce
la
que
Bretagne
ça veut dire, qui était très physique. Ça veut dire quoi?
Qui était dans un jeu très
très
primaire, l'opposé justement d'une recherche de jeu collectif évolué. Mm-hmm. Le football était tel quel parce que la société évoluait. Et quand on a vu la suite, c'est phénoménal, parce que François avait anticipé tous les problèmes qu'il y a sur le plan du commerce et notamment du foot, de la presse. Son livre qui est épuisé, malheureusement, le temps du miroir, cette incroyable d'anticipation
c'est
de
prophétique.
Ce qui s'est passé.
C'était, oui, absolument.
Il a écrit ça en 78, mais c'est tout à fait remarquable dans l'anticipation de tous les problèmes et des dérives de la société actuelle.
On va en parler dans la seconde partie de cette émission.
Mais disons que ces belles idées, malheureusement, étaient difficilement défendables dans un monde marchand que vous décrivez, monsieur Gourcuff, qui effectivement va emporter tout sur son passage.
Alors, c'est l'heure de la pause musicale en cette émission avec la chanteuse Miss Sparrow et le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, Danse.
Si le battement presse ta poitrine avec force à te donner l'envie de t'élancer dans le vide sans raison, sans fil et sans compter le temps qui défile. Une phalange t'escorte, laisse-la franchir les dernières portes, relâche tes hanches, brise les chaînes qui bridaient ton corps, libère-le, libère-toi, sors.
L'œil du tigre.
Certains sportifs entrent à leur tour dans la ronde. Une centaine de footballeurs ont occupé ce matin les locaux de la Fédération française de football, avenue de Iéna.
Philippe Collin.
Claude Médieu est sur place.
Ce matin, une centaine de footballeurs amateurs ont occupé le siège de la Fédération française de football, 60 avenue d'Iéna. Nous avons pu constater effectivement qu'il y avait un drapeau rouge qui flottait au premier étage, avec une banderole dessous qui indiquait le football aux footballeurs, et une autre banderole indiquait la fédération propriété des 600 000 footballeurs.
Sur France Inter.
Le 22 mai 1968, donc, poussé par la rédaction du Miroir du football, magazine mensuel proche du Parti communiste, une centaine de personnes ont pris possession du siège de la FFF afin de réclamer que le football soit rendu aux footballeurs. Un coup d'éclat qui fut accompagné d'un texte qui appelait, je cite, « à libérer le football de l'argent des pseudo-mécènes incompétents qui sont à l'origine du pourrissement du football ». Fin de citation. Disons que, d'un certain point de vue, 70 ans plus tard, l'avenir ne leur a pas donné tort. Prenons un des exemples les plus récents, celui du club de Bordeaux, les Girondins, les grands Girondins, vendu en 2018 à un fonds d'investissement.
82 pour, 9 contre, 13 abstentions. La demande de main levée de M6 et la validation des garanties américaines pour le loyer au stade sont adoptées. C'est un oui politique à la cession des Girondins.
La délibération est adoptée et je vous en remercie. Merci.
Mais le débat a été fourni entre la majorité et l'opposition. Question de philosophie sur le foot business.
Il y a une certaine indécence quand on regarde le montage financier du repreneur qui vise de bout en bout à construire l'évitement fiscal. Une contribution fiscale qui aurait pu amplement aider au financement du sport amateur.
Divergence également sur la pérennité du club.
Monsieur Dagrosa a exprimé une forte empathie à la fois pour la ville de Bordeaux et pour ce club, un fort engagement, la volonté d'en faire un club qui figure au plus haut du tableau dans la Ligue 1 de football français. Il a confirmé qu'en cas de défaillance, GACP rembourserait par priorité Bordeaux Métropole par rapport à tous les autres créanciers éventuels du club.
Alain Juppé lui-même parle d'engagements moraux de la part de M. Dagrosa. Moi, je préfère des engagements juridiques. Ces engagements juridiques, aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne les a pas.
On ne les a pas. Là, nous étions en 2018. Benoît Emmermann, nous sommes en 2021. Le club de Bordeaux est à nouveau à vendre avec un grand péril. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On parle de relégation. On a même vu cette semaine une relégation en National 2. Nous parlons là des grands Girondins de Bordeaux. Le club est au bord d'une grande faillite et d'une disparition de l'élite. C'est troublant de voir combien 30 ans, 40 ans après François Thébault et le miroir du football, comme disait Gourcuff tout à l'heure, la prophétisation et le réel. Là, nous sommes dans le réel, dans le concret. L'argent peut tuer le football, Benoît Emmermann.
D'une certaine manière, oui. Je dirais tout l'environnement est assez... Il y a de l'indécence, il y a même de la corruption, il y a ce qu'on veut, les fonds de pension, les racheteurs. Moi, mon club de cœur, quand j'étais gamin, c'était le FC Sochaux, qui a été racheté par des Chinois. J'ai rien contre les Chinois, mais encore faut-il qu'ils s'intéressent au foot, et surtout à la région, aux jeunes qui peuplent cette région et qui nourrissent ce club. Moi, ça me fait toujours, ce qui se passe actuellement, ça me fait penser aussi à un film prémonitoire, celui de Ken Loach, Looking for Eric, où effectivement, dans un pub, vous voyez 3-4 supporters qui sont là. Ils ne peuvent plus aller au club voir les matchs parce que c'est trop cher. Ils ne peuvent plus voir les matchs à la télévision chez eux parce que les abonnements sont trop chers. Donc ils sont obligés de se retrouver au pub pour regarder le football. On est loin du sport populaire. Personne n'a dit que quoi que ce soit, la dernière Champions League n'était pas visible en clair. Il fallait être abonné pour voir la finale de la Champions League. C'est tout de même dingue.
C'est même très choquant.
C'est très choquant. Mm-hmm. On a deux entraîneurs formidables qui ont gagné l'un le championnat de France, l'autre le championnat d'Italie, avec un bon football, avec une bonne équipe, etc. Ils terminent leur saison, ils changent de club. C'est pour les supporters, c'est tout de même assez dingue. Ils font pas la Champions League l'année prochaine avec leur club. Donc effectivement, ce qui se passe autour des clubs, ces mercato sempiternels, ces surinvestissements et tout ça, effectivement, peuvent tuer le football. Sur le terrain, heureusement, on voit encore du sport. Mais vraiment, autour, ça devient compliqué, quoi.
Christian Gourcuff, vous avez une grande expérience du football. D'abord joueur, puis entraîneur, grand entraîneur, je l'ai dit. Pendant le disque, je vous ai demandé si vous étiez prêt à reprendre un banc, à reprendre un poste d'entraîneur. Vous m'avez dit non, plus jamais, c'est fini. Et tant mieux, je n'ai pas de regrets. Est-ce que cette décision, vous êtes encore jeune, tout à fait en bonne forme, il n'y a qu'à vous voir, est-ce que cette décision de ne plus entraîner, elle fait écho à ce qu'on vient d'entendre, par exemple, avec ce club des Girondins de Bordeaux, ou à ce qu'on évoque ici avec Benoît Emmermann?
Oui, mais je ne découvre pas les choses. Ah oui. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a une évolution déjà dans le statut des clubs que l'on a vu, qui sont maintenant dans le business. Et bon, la nature même du sport a changé.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, par exemple, pour vous?
Parce qu'on fait du sport, c'est la nature même du sport, c'est la façon d'arriver à un résultat. Il ne s'agit pas de nier le résultat. Et François Thébault ne niait pas le résultat. Mais c'est la manière d'arriver au résultat et l'épanouissement que donne le sport. Et ça, c'est la nature même du sport. Maintenant, vous, avec qui vous pouvez parler de ça? Avec des dirigeants? Avec le public? Avec les réseaux sociaux? Avec les joueurs? Avec des agents? Avec la presse? Si vous tenez ce discours-là, vous êtes en décalage avec tout le monde. Et c'est en ce sens qu'il y a eu une évolution où ça continue. On est dans la recherche du résultat. Et quand je dis résultat, c'est pas résultat simplement, c'est résultat financier d'abord.
Bien sûr.
Et donc, on le voit avec ce qui se passe. Les propriétaires des clubs sont ils ne sont pas sportifs, ils sont pas intéressés par la France en particulier. Donc, en résistance, il y a les ultras qui ne sont pas des sportifs, puisqu'ils sont là pour la bagarre, mais pour le résultat. Et donc, vous avez des groupes de pression. On parle de tout, mais on ne parle pas de sport. C'est en ce sens que François, déjà, il avait déjà anticipé tout ça. Et c'est ça qui est à la fois remarquable, mais triste aussi, parce qu'il y a, je pense que de toute manière, c'est une évolution de la société qui, dans la recherche, ça dépasse le cadre, je dirais même politique. C'est la nature même de l'économie de marché qui fait que le sport a changé de nature.
Benoît Emmermann, il y a dans cette galaxie du miroir du football qu'on évoque ce soir, ce mensuel entre 59 et 79, un homme dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelait Jean Levron, sous nom de plume Jean Norval. Qui était-il, ce Jean Norval, Benoît Emmermann?
Alors, comme je comparais le miroir du foot au cahier du cinéma, effectivement, François Thébault Truffaut avait ses Godard, ses chez Chabrol, etc. Et lui, c'était Romère. Quoi.
D'accord.
Il était à la fois théoricien et théologien, je dirais. Il défendait encore peut-être plus que François cette éthique qui nécessitait le beau jeu. Quand on dit beau jeu, il faut pas oublier, le beau jeu, il faut qu'il soit efficace aussi. Donc il y avait une certaine... Il y avait les passes en retrait qui étaient assez, que François aimait assez, les coups francs indirects, les passes perpétuelles, ça c'était la passe toujours. Donc effectivement, Norval défendait ça aussi et il a écrit des textes très très beaux qui ont été regroupés et qui font penser justement à... Il y a un contrat social aussi derrière tout ça, un peu à la Pasolini, c'est-à-dire c'est le football est un objet esthétique, donne de l'esthétisme, mais il a aussi un reflet sur la société, un écho sur la société. Et Norval écrivait ça très très bien. Il avait 20 ans de moins que François Thébault, mais il était aussi convaincu que lui, voire plus.
Et donc le 16 mars dernier, Benoît, un éditeur, un très bel éditeur qui s'appelle En Exergue, une maison qu'on aime beaucoup, a retrouvé, en tout cas réédité un recueil de textes de Jean Norval qui est publié sous le titre « Des années de Braise aux années de Pèze ». Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce recueil et quelle était l'ambition de ce recueil de textes de Jean Norval?
Alors, effectivement, les éditions En Exergue ont retrouvé ce manuscrit parmi les amis de François Thébault. Soulignons ceci, il existe un groupe qui s'appelle Les Amis de François Thébault. Et je vous invite à aller voir le site, ça permet de relire François dans le texte et de redécouvrir.
Et d'avoir accès au miroir du football, du coup.
Absolument. Et Jean Norval, qui est décédé juste après la Coupe du Monde 98, si je ne m'abuse, il avait laissé derrière lui ce manuscrit avec différents textes. Et ces différents textes vont tout à fait dans le sens de tout ce qu'on vient de développer depuis un bon moment. C'est-à-dire des textes qui sont presque au lance-flamme par rapport à un certain... Vous savez, c'est une époque où tout se normalisait, le catenaccio était roi. Il fallait trouver d'autres solutions pour lutter contre ce type de football, et ce football un peu étriqué. N'oublions pas aussi qu'en France, à cette époque-là, le football n'était pas très vaillant au niveau de l'équipe nationale, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque pas de Coupe du Monde 62, assez faible en 60, pas de Coupe du Monde 70, pas de Coupe du Monde 74. Et donc François Thébault et Norval développaient cette idée qu'il fallait sans doute trouver d'autres solutions pour faire un football plus attrayant pour convaincre un public que le football était un grand sport.
Christian Gourcuff, quitte à défendre le jeu, et uniquement le jeu, on prend aussi le risque de ne pas gagner de trophée. C'est aussi possible qu'après tout, comme disait Coppa, ce qui compte, c'est de jouer. Mais on peut aussi avoir des trophées avec des grandes joies populaires. La Coupe du Monde 98, elle est gagnée, et elle provoque une grande joie populaire avec un jeu qui est peut-être un peu plus...
On n'est plus dans la nature du sport, ce que je dis. Mm-hmm. Là, on est dans le chauvinisme. Mm-hmm. Ce qui caractérisait justement aussi Miroir du Foot et François Thébault, c'est que d'abord, lui, c'était l'objectif de ses écrits, c'était pas commercial, c'est-à-dire que il faisait pas un audimat, hein, il vivait, je crois que c'était pas
très modestement.
Sur le plan économique, c'était pas exceptionnel. Il cherchait pas plus, il cherchait juste à faire de la qualité dans l'écriture. Il n'était pas du tout dans le chauvinisme. C'est-à-dire que François Thébault, c'était, il supportait le Brésil quand le Brésil jouait en 70, remarquablement bien. Après, en 74, le Brésil change d'option et il n'est plus supporter du Brésil. C'était pas le supporter. C'était, et justement, ce qui s'est passé avec les éditions J, c'est qu'en 76, il y a Saint-Étienne qui gagne. Lui, il émet des réserves sur le jeu stéphanois de l'époque, et on lui dit, ouais, mais il faut vendre, donc il faut vendre du verre de Saint-Étienne. Et lui, il a voulu garder sa ligne rédactionnelle, et c'est comme ça qu'il y a eu le clash. Donc c'était des valeurs de sport, mais qui sont pas du tout le supporterisme. Et c'est difficile à entendre maintenant, justement, parce qu'on est tellement gagné par ça. C'est effectivement, en 98, il y avait les femmes qui se sont intéressées au foot, personne qui ne connaissait rien, mais comme l'équipe de France était championne du monde, on sait, plein de personnes se sont intéressées au foot juste parce qu'on gagnait. C'était la victoire, c'était pas le jeu. Et maintenant, vous allez dans un stade, vous avez que des supporters, vous avez plus de spectateurs, vous avez plus de gens qui viennent pour le jeu. Ça n'existe plus.
C'est intéressant comme réflexion.
Il n'y a pas de supporterisme. Moi, je sais qu'adolescent, j'adorais l'Ajax Amsterdam. Le Miroir a aimé l'Ajax Amsterdam. Avec ses réserves, Norval a écrit des lignes tout à fait intéressantes là-dessus, en disant, OK, tous défenseurs, tous attaquants, c'est la porte ouverte au football musclé, au football, il faudra faire du bodybuilding tout le temps pour être au niveau.
Oui, il critiquait le jeu total. Hein. Il trouvait ça très automatisé.
Non, c'était juste des réserves sur l'impact physique. Ça reposait sur l'impact physique. Or, pour eux, la valeur première, c'était l'intelligence et la virtuosité technique. Oui.
La créativité. Il aimait beaucoup Cruyff, en revanche. Il disait que c'était d'ailleurs le joueur le plus inventif d'Ajax et tout reposait sur lui, grosso modo. Donc, c'est toujours cette volonté, effectivement, de défendre le jeu avant le résultat.
L'Allemagne est une équipe solide qui rêve de reconquérir le titre qu'elle avait remporté il y a 20 ans. Mais en phase 2, ils vont trouver une équipe que personne n'attendait, la Hollande. Avant le début de la Coupe du Monde, chez les pronostiqueurs, la Hollande n'arrivait qu'en quatrième position, derrière l'Allemagne, bien sûr, le Brésil et l'Italie. Mais dès les premières rencontres, les Hollandais ont libéré le football. Ils ont amené une autre manière de jouer et surtout un autre esprit de jeu. Leur tactique est simple, elle s'inspire de celle des basketteurs. Toute l'équipe attaque lorsqu'elle possède le ballon et toute l'équipe défend lorsqu'elle le perd. Somme toute, les joueurs sont polyvalents. Mais bien sûr, pour appliquer cette formule, il fallait des joueurs d'exception. La Hollande les possède et surtout, elle possède un certain Johan Cruyff qui orchestre tout ce petit monde.
Pour finir, la même question à tous les deux. Vendredi prochain, début de cet Euro 2021, qu'est-ce que vous en attendez l'un et l'autre, Benoît Hemmermann ?
Du beau football, mais vous savez, je suis pas passéiste en matière de football. J'avoue que sincèrement, par rapport aux autres sports, si on compare le football aux autres sports, on voit tout de même du beau football de temps en temps. Le Barcelone nous a enchantés, Guardiola et ses équipes nous enchantent, etc. Regardez le rugby, c'est une collision frontale maintenant entre des athlètes. Le tennis est assez soporifique, le cyclisme c'est un sport un peu comptable. Je veux dire, le football c'est encore chatoyant, il se passe encore des choses sur un terrain. En tout cas, c'est mon avis. C'est pas tout le temps, mais franchement, on a vu en Champions League en particulier des très beaux matchs de football où on jouait un football qui était aussi enthousiasmant, voire plus que ce qu'on voyait il y a 30 ans. Donc, mais c'est par intermittence, et ça ne fait surtout pas oublier tout ce qu'il y a autour et qui est effectivement très très regrettable.
Christian Gourcuff, la même question. Qu'est-ce que vous attendez, vous, l'entraîneur français de cet Euro 2021 ?
Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup plus d'incertitudes qu'il pouvait y avoir il y a quelques années sur la hiérarchie dans une compétition. Donc on verra bien, mais bon, la France a naturellement, je dirais, sur le plan individuel, et certainement l'une des équipes les mieux armées.
Et est-ce qu'il y a une équipe dont le jeu vous séduit, Christian Gourcuff, dans cette Euro 2021?
Non, parce que si vous voulez, sur le plan international, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avant, vous avez le Brésil qui avait, une caractéristique, qui avait une personnalité. Les Allemands aussi. Maintenant, vous avez... C'est un mélange, vous n'avez plus de... Les derniers qui ont eu cette personnalité, c'était les Espagnols, qui ça s'est un petit peu aussi dénaturé. Mais vous avez, sur le plan international, vous avez plus
ces
spécificités qui étaient aussi un attrait. Donc pour moi, ça a aussi beaucoup moins d'intérêt. Puis après, bon, je pense aussi, sur le plan... Les choses ont évolué parce que le foot des équipes nationales a perdu de son attrait par rapport aux équipes de clubs. Et je pense que les joueurs, eux aussi, c'est la Champions League, c'est quand même la référence maintenant par rapport même au, je dirais, à un euro.
En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus ce soir. Vous pouvez retrouver les grands papiers publiés dans le miroir du football sous la plume de Jean Norval dans un livre qui vient de sortir, donc intitulé « Des années de Braise aux années de Pèze », disponible aux éditions En Exergue. Et par ailleurs, vous pouvez aussi consulter le site web des Amis du Miroir, des Amis de François Thébault, un site comme un savoureux voyage dans le temps. Vous verrez, même le site, il a une patine, c'est assez charmant. Merci beaucoup à vous deux, à bientôt, salut.
L'œil du tigre, Philippe Collin, sur France Inter.
Too far in it, too far gone. She knows what's in it, she knows what's wrong. She just can't quit it, her heart's so numb. Hers to live it, but what's to run?
Une chanson signée Georgia Smith. On poursuit en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Ce soir, on entame une série liée à l'Euro 2021. Bonsoir Pierre-Étienne.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous.
Alors, ce soir, vous inaugurez une série de chroniques en lien avec le championnat d'Europe de football.
Oui, vu que l'Euro débute vendredi prochain, je vous propose de décrypter chaque semaine, jusqu'à la fin du mois de juin, les différents hymnes qui ont été composés à la gloire des plus grandes sélections européennes. On va logiquement commencer notre voyage musical en France, en s'intéressant donc aux titres qui visent à encourager les Bleus.
Alors, qu'est-ce qui caractérise ce genre musical dans notre pays, Pierre-Étienne Minanzio?
Bon, si on compare par rapport à ce qui se fait à l'étranger, oui. Les hymnes à l'équipe de France se distinguent par leur caractère tardif, il n'y en a pratiquement eu aucun avant 1978, et surtout par la place qu'ils accordent à l'humour. En effet, comme les artistes hexagonaux les plus en vue ont longtemps été réticents à afficher leur passion pour le ballon rond, les chansonniers en ont profité pour se positionner sur ce créneau. Ainsi, un peu avant la Coupe du Monde 1982, l'humoriste Jean Roucas publie « À qui la coucoupe ?» dans laquelle il imite une Dalida énamourée de Platini, puis François Mitterrand, avant de chanter son refrain. Un enchaînement pour le moins surprenant.
Platini, Platini, regarde, ils sont tous venus te voir. Regardez la balle, tu as failli être rouge. Je me souviens, à Saint-Étienne, toutes les femmes étaient folles de toi. Mais tu ne les regardais pas, toujours les yeux sur le ballon. Tu gagneras Platino l'amoroso. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent ces Espagnols, à part la paella et la moulette? Vas-y Platino, on se reverra en Italie. Accidenti.
Bravo Dalida, à mon avis c'est le seul hymne valable.
Pour qui sera la coucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucouc
On revient de loin. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de chansons qui clament « Allez les Bleus » avec humour, Pierre-Étienne?
Oui, dans les années 80, cette tendance s'est confirmée et pire, elle s'est institutionnalisée.
Oui.
Avant le Mondial 1986, la FFF, la Fédération Française de Football, a choisi comme hymne officiel « Viva les Bleus ». Un titre entonné par des références de la variété de l'époque comme Herbert Léonard ou Didier Barbelivien, avec l'aide de pointures de la galéjade comme Sim ou Patrick Sébastien, qui lâche d'ailleurs un bon mot au milieu du morceau. On écoute.
Viva, viva, viva les Bleus, en terre aztèque ils vont jouer comme des dieux. Viva, viva, viva les Bleus, les sombreros n'auront plus Dieu que pour eux.
Et viva les rouges, les bleus, pardon. On s'est dit déjà bien, et là ça sera très bien.
Aïe, aïe, aïe. Donc tous les hymnes de l'équipe de France n'ont pas non plus été composés par des humoristes, Pierre-Étienne.
Alors c'est vrai qu'en 2002, la FFF, sans doute lassée des blagounettes, s'est tournée vers la figure du commandeur de la chanson française, Johnny Hallyday, qui, on s'en souvient, hurlera à qui veut l'entendre « On est champion, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. » Voilà. Bon, malgré son succès public, avec 500 000 exemplaires vendus, ce morceau s'est finalement révélé comme le symbole d'une équipe de France trop sûre d'elle-même, qui, cette année-là, a été éliminée dès le premier tour du Mondial. En 2004, la FFF jette son dévolu sur le fade « Can you feel it » de Jean Roch, mais le morceau passe un peu inaperçu. Depuis, les Bleus n'ont plus jamais bénéficié d'un hymne officiel.
Ah, ce qui, j'imagine, a laissé le champ libre aux humoristes.
Exactement. Sébastien Coët a emporté la mise en 2006 avec son fameux « Zidane y va marquer », avant de laisser place au duo Omar et Fred, qui, en 2010, déguisé en Teletubbies, chantonnait « Bleu, blanc, rouge, il faut gagner les Français ». Parallèlement, depuis 15 ans, de plus en plus d'humoristes s'amusent à détourner des standards de la chanson française pour décrypter l'actualité footballistique. De sorte qu'en 2008, les Bordelais de 36-15 Polyprod ont marqué les esprits en s'inspirant d'un tube de Daniel Balavoine pour décrire le mal-être de David Trezeguet, non retenu à l'Euro par Raymond Domenech.
Ça, c'est un peu mieux, quand même.
Certes, mais cette persistance à vouloir faire rire au moment d'encourager les Bleus est troublante. Elle nous ramène à un vieux débat. La France est-elle un pays de football ? Autrement formulé, est-ce que notre pays considère ce sport comme une culture respectable avec des valeurs et une histoire qui lui sont propres ? Eh bien, à l'écoute des titres de Jean Roucas ou de Sébastien Coët, on peut en douter.
Oui, le football demeurera toujours suspect en France, Pierre-Étienne. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut. Et voilà, cette 37e émission
de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M Henri Marc Mutel. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Louis Audebert. Merci à lui. Merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scuds. Et merci à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr bien sûr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire des footballeurs d'origine algérienne en équipe de France, de Rachid Mekloufi à Karim Benzema, en passant bien sûr par ZZ, Zinedine Zidane. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.